France Inter, 7h.
France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Mardi 2 avril, bonjour à tous et bienvenue sur Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, faciliter le diagnostic des enfants autistes pour améliorer leur prise en charge. C'est le chantier prioritaire du gouvernement en cette journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Première mesure concrète attendue dès le mois de juin. On voit ça en détail après les autres titres.
Gagner du temps, leitmotiv du clan au pouvoir en Algérie. La réforme des retraites ira-t-elle à son terme ? La question se pose de plus en plus clairement. 5 ans de prison ferme requis à l'encontre de Bernard Tapie. Et puis le papy du rock doit être opéré du cœur. La tournée des Stones s'est annulée.
Les invités d'Inter ce matin. Bonjour Alexandra Ben Saïd.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
7h50.
C'est le gouverneur de la Banque de France qui vient de remettre sa lettre annuelle au chef de l'État dans le sillage du grand débat, alors que l'économie ralentit à la veille probable du Brexit. Quel message ? François Villeroy de Gallo sera avec nous à 7h50.
A tout à l'heure, 8h20, il publie une nouvelle édition enrichie de son livre « Les leçons du pouvoir ». Il y critique à fleurer à peine moucheté son successeur Emmanuel Macron, l'ancien président de la République François Hollande et l'invité du grand entretien de la matinale.
France Inter.
C'est un trouble de la communication qui, à des degrés divers, touche plus de 600 000 personnes en France. Le regard de la société sur l'autisme a changé ces dernières années, même s'il reste beaucoup à faire sur l'accompagnement des enfants et des adultes. Et cela commence par le diagnostic. Plus le trouble est détecté tôt, meilleure sera l'évolution. La secrétaire d'État aux personnes handicapées, Sophie Cluzel, promet donc du concret dès le mois de juin, avec des examens médicaux et un bilan désormais pris en charge. Lisa Guyenne.
Jusqu'à présent, les familles devaient faire face à un choix, soit faire diagnostiquer leur enfant dans un centre de ressources gratuit, mais avec une liste d'attente parfois très longue, soit en passant par des médecins libéraux, mais dont les bilans sont payants, plus de 3000 euros par an. La secrétaire d'État Sophie Cluzel.
C'était un premier bilan d'ergothérapie et puis une intervention d'un an, 1500 euros. Pareil pour la psychomotricité, 1500 euros. Et le bilan psychologique de 300 euros. Donc là, vraiment, les parents n'auront rien à débourser parce que ça sera totalement pris en charge. Mais c'est surtout que le parent aura un référent en face de lui, une équipe dédiée pour pouvoir accélérer ce diagnostic.
Des équipes réunies dans ce que la secrétaire d'État appelle des plateformes d'intervention précoce, un dispositif qui fait encore douter les associations. Danielle Langlois est la présidente d'Autisme France.
Les plateformes, elles ne répondront que très partiellement à une toute petite partie de la question. C'est-à-dire comment on fait pour commencer à avoir un premier bilan diagnostique qui tienne la route et puis un début d'intervention. Ça ne résout absolument pas le problème de l'après.
L'association doute aussi du respect du calendrier annoncé. Les 10 premières plateformes sont censées être en place dès la fin du mois de juin.
Et une fois le diagnostic posé, les familles cherchent la méthode la plus adaptée à leur enfant. Certaines sont pourtant controversées. Dans le journal de 8h, reportage sur la méthode dite des 3I, intensive, individuelle et interactive. Gagner du temps, c'est visiblement la technique du clan au pouvoir en Algérie face aux manifestations pacifiques qui ne faiblissent pas depuis plus d'un mois. La présidence lâche du lest petit à petit. Après avoir renoncé à un 5e mandat, Abdelaziz Bouteflika, dans un communiqué, a annoncé hier qu'il démissionnerait avant la fin de son mandat, le 28 avril, et qu'avant de quitter le pouvoir, il prendrait d'importantes décisions pour assurer la transition. Mais Nathanaël Charbonnier, en l'absence de calendrier précis, les Algériens risquent d'être encore déçus.
C'est comme aux échecs, chaque coup doit être interprété en fonction de ceux qui sont venus avant et ceux qui restent à venir. Une nouvelle fois, le président Bouteflika tente donc de gagner du temps. Il avait déjà procédé de la même façon lors de sa candidature, avec la lettre envoyée aux Algériens. En annonçant une démission avant le 28 avril, le président sortant entend en tout cas jouer sur 3 tableaux. Le premier, c'est l'honneur. En reprenant la main, il peut espérer éviter l'empêchement promis pour cause d'incapacité à gouverner. Le deuxième concerne le camp Bouteflika. La promesse de démission lui permet de négocier l'après. On l'a vu ce week-end, des arrestations ont déjà eu lieu de proches, comme celle du patron des patrons. Le troisième, enfin, concerne la transition. En démissionnant, elle repousse la gestion du pays par la haute chambre du Parlement et son président. Le clan Bouteflika qui joue la montre en lâchant petit à petit, miette après miette, le pouvoir qu'il a depuis 20 ans. La balle se retrouve aujourd'hui dans le camp de la rue. C'est elle qui, une nouvelle fois, devra dire si oui ou non elle juge la concession suffisante.
Et reportage en Algérie à suivre dans le Zoom de France Inter à 7h15. Non, 4 fois non, les députés britanniques ont de nouveau rejeté hier soir les 4 scénarios possibles du Brexit. La solution consistant à rester dans une union douanière a cependant failli passer, ça s'est joué à 3 voix près, mais ce matin, tout reste à faire. Theresa May doit consulter les principaux ministres de son gouvernement pour tenter une énième sortie de l'impasse et éviter un Brexit sans accord.
France Inter 7h05, suite du journal, Agnès Soubiran.
Avec des peines de prison fermes requises hier soir à l'encontre de Bernard Tapie, Pierre Estoupe et Stéphane Richard, soupçonnés d'avoir organisé un arbitrage en faveur de l'ex-homme d'affaires qui avait reçu 400 millions d'euros en 2008. Un arbitrage truqué sous les feux médiatiques et les ors de la République, a dit l'accusation, qui demande donc des peines entre 18 mois et 5 ans d'emprisonnement. Sarah Guibaudot a assisté à l'audience.
Au terme d'un réquisitoire fleuve, l'un des deux représentants du procureur choisit de revenir à une image simple. Vous avez des fonds publics dans un coffre-fort. Bernard Tapie va faire ouvrir le coffre grâce à la négligence de la ministre Christine Lagarde et à la complicité d'agents publics comme Stéphane Richard qui ont la combinaison. Bernard Tapie n'a qu'un objectif, gagner à tout prix selon le parquet. Avec son éminence grise, l'avocat Maurice Lantourne, c'est une association qui met en échec la justice depuis 25 ans. C'était un pari, pas gagné d'avance, mais ils avaient la chance de faire un arbitrage avec un arbitre à la main, poursuit le procureur. Il requiert les peines les plus lourdes à l'encontre de Bernard Tapie, 5 ans de prison et la confiscation de ses biens. De l'arbitre Pierre Estoupe, 3 ans ferme pour celui qui avait oublié de très très longue date son serment de magistrat. Réquisitoire plutôt sévère aussi à l'encontre de Stéphane Richard, accusé d'avoir trompé sa ministre. 18 mois ferme, 100 000 euros d'amende et l'interdiction d'exercer toute fonction publique pendant 5 ans. Si le tribunal suit ses réquisitions, son poste à la tête d'Orange est compromis.
Et place aujourd'hui aux plaidoiries de la défense. Réquisitoire sévère également à l'encontre des 2 pilotes d'Air Cocaïne. Réquisitoire de plus de 10 heures hier devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence où les protagonistes de cette affaire ont été qualifiés de mules de luxe. L'avocat général a donc requis 7 ans de prison pour les 2 pilotes et jusqu'à 25 ans pour le commanditaire présumé. Verdict attendu vendredi. Et puis l'enquête se poursuit au sein de l'EHPAD où 5 personnes âgées sont mortes dans la nuit de dimanche à lundi, sans doute victimes d'une intoxication alimentaire. Les repas étaient préparés sur place, selon la direction, ce que contestent plusieurs témoignages. Cette EHPAD privée, située au Lerme, près de Toulouse, appartient au groupe Korian.
Il est 7h08, retour en France, Agnès, où le grand débat dure encore.
Un ou plus exactement 4 débats à l'Assemblée, prévus aujourd'hui et demain. Service public, transition écologique, démocratie et fiscalité. Les élus de La République En Marche de la Commission des Finances ont d'ailleurs transmis au gouvernement un certain nombre de propositions, dont la plus emblématique est une baisse des impôts pour les classes moyennes afin de lisser l'entrée dans l'impôt. Une mesure qui serait financée par la suppression de certaines niches fiscales. Débat aussi sur la réforme des retraites. Pas un jour sans qu'un ministre ou un membre de l'opposition ne vienne donner un coup de canif à la réforme en cours de discussion. Ces attaques répétées pour imposer un report de l'âge légal de départ et financer la dépendance font douter les partenaires sociaux de l'avenir politique de cette réforme. Laurent Kramer.
Y a-t-il encore un pilote dans l'avion, s'interroge Force Ouvrière. L'atterrissage de la réforme des retraites n'aura certainement rien à voir avec la destination annoncée au départ, se désole Philippe Pillet, AFO.
C'est à se demander si le gouvernement n'a pas décidé de mettre un terme à la concertation et de passer en force avec un texte qu'il a déjà écrit. Il y a une chose qui est claire, c'est que le gouvernement ne reprend pas les pistes proposées par le haut-commissaire. Il n'y a plus de confiance. Et je rappelle quand même que un des motifs politiques avancés, c'était redonner confiance aux jeunes générations dans le système par répartition.
Changer de cap en pleine réforme et finalement allonger la durée d'activité pour financer la dépendance reviendrait tout simplement à tuer dans l'œuf et torpiller une ambitieuse réforme des retraites par points, s'inquiète Frédéric Sève à la CFDT.
C'est bien possible que ceux qui font ces sorties-là veuillent torpiller un projet de réforme avec lequel ils ont peu d'atomes crochus. Finalement, est-ce qu'une mesure d'âge ne réglerait pas tous les problèmes et finalement serait moins compliqué à porter qu'une réforme globale? C'est sûr que s'il y a une réforme qui touche à l'âge ou qui veut faire des économies d'une manière générale, ça sera sans nous, sans la CFDT.
Le mécano issu de plusieurs mois de concertation sur les retraites menace aujourd'hui de s'effondrer. Les partenaires sociaux demandent au gouvernement d'annoncer clairement s'il entend faire payer la dépendance en durée de cotisation.
Le grand débat encore avec à 2 jours de son arrivée en Corse une interview du chef de l'État dans Corse ce matin. Le chef de l'État qui se dit disponible et volontaire. Je pense qu'on peut défendre l'identité de la Corse Corse et respecter profondément la République et ses valeurs. Et concernant la langue corse, il annonce la création de l'agrégation de Corse et d'une spécialité corse pour le bac. Mais le français reste la seule langue officielle de la République. Parce qu'on ne peut pas indéfiniment repousser les choses, le ministre de la Transition écologique a annoncé hier une hausse pendant l'été du tarif réglementé de l'électricité. Une hausse retardée en raison du mouvement des Gilets jaunes et qui devrait s'élever à 5,9%. L'association CLCV met en garde ce matin. Si la hausse des prix de l'électricité dépasse 50% en 10 ans, nous saisirons le Conseil d'État. Ils sont installés au même endroit, parfois depuis des années, et tissent des liens avec les habitants du quartier, ce qui n'empêche pas les drames quotidiens. Un hommage sera rendu aujourd'hui aux SDF morts dans la rue, 566 l'an dernier, c'est 56 de plus qu'en 2017. Parmi les morts de la rue, Petit Bouddha, personnalité bien connue des habitants du 13e arrondissement de Paris, Rémi Brancato a rencontré l'un de ses amis.
Sur son ordinateur, Alexandre Castel a compilé quelques photos.
C'est une entrée de garage de parking rue de Baudricourt.
Un homme est assis au milieu de cartons, de sacs. C'était Petit Bouddha, comme tout le monde l'appelait dans le quartier.
Je venais pour prendre du réconfort auprès de lui. J'allais le voir tous les jours, comme quelqu'un vient voir un de ses proches de la famille. Il a été le père que j'ai pas eu.
Alexandre, responsable associatif, a rencontré cet homme arrivé du Cambodge, selon lui, il y a 30 ans, devant un temple du 13e arrondissement. En 17 ans d'amitié, il a toujours refusé ses propositions de l'héberger. Et le 17 novembre dernier, c'est à lui que le collectif des morts de la rue a téléphoné.
Le collectif m'annonce le décès de Bouddha. Et je suis allé récupérer ses affaires au centre d'aide et d'action sociale. Sa vie tenait dans une valise. C'est l'association qui a fait les démarche qu'il fallait pour qu'il soit inhumé. Il est parti avec une dignité d'homme. Au fond de moi, ça me fait chaud au cœur parce que je vois un cercueil. Tout le monde n'est pas mis en bière aujourd'hui, surtout quand on est SDF. C'est le cercueil de Hang Xiong Kao.
Les habitants ont déposé des fleurs, des messages à l'endroit où vivait Petit Bouddha. Alexandre a réalisé une vidéo.
Je vous la montre. Aujourd'hui en France, on meurt de froid. C'est inadmissible, inacceptable. Alors quand je vois ce monde, il n'y aura plus de SDF dans la rue. C'est faux.
Et aujourd'hui, avec le collectif, il rendra hommage à son ami et aux 565 autres morts dans la rue l'an passé.
Et l'hommage aura lieu au jardin Villemain, dans le 10e arrondissement. Enfin, grosse déception pour les fans des Rolling Stones. Leur tournée, qui devait débuter dans quelques jours, a été annulée en raison de l'état de santé de Mick Jagger. Grégory Phillips.
Tout était prêt sur les réseaux sociaux. La bande-annonce de ce No Filter Tour, les stades réservés, les billets écoulés depuis fin novembre de $200 jusqu'à presque 3000 pour les plus onéreux. Et au total, 17 dates. Le premier concert devait avoir lieu le 20 avril à Miami. Les Stones devaient aussi se produire au Jazz Fest de la Nouvelle-Orléans ou ici en Floride.
Five Rolling Stones are coming to Jacksonville. Yes, the Stones.
Sur Twitter, Mick Jagger se dit anéanti d'avoir dû repousser cette tournée, mais écrit aussi qu'il travaillera très dur pour être de retour sur scène dès que possible. Jagger a 75 ans, il a été aperçu dimanche à Miami, visiblement en bonne forme, mais le magazine Rolling Stone, qui n'a rien à voir avec le groupe, affirme que le chanteur doit être opéré ce vendredi à New York pour le remplacement d'une valve cardiaque. L'entourage des Stones ne fait aucun commentaire, mais laisse entendre que ces 17 dates pourraient être reprogrammées rapidement, peut-être dès cet été. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Vivement l'été, Nicolas.
Oui, avec plaisir. Merci Agnès Soubiran.